Il est 7h02 minutes. Bernard Sévigny, bonjour.
Bonjour, Louis.
Alors, un malheur n'arrivant jamais seul, l'industrie touristique disait, hey, ça va être le fun, les touristes américains vont pouvoir recommencer à venir chez nous à compter du 9 août. Mais il pourrait y avoir un petit peu de congestion à la frontière parce que les douaniers veulent déclencher une grève 3 jours avant.
On pourra pas le reprocher de ne pas avoir le sens du timing.
Non, Louis. Exact.
Mais est-ce que c'est un bon timing? Moi, c'est la question que je pose ce matin. Et c'est vrai qu'ils sont sans contrat de travail depuis 2018. Puis d'ailleurs, le fédéral leur avait consenti un rattrapage salarial dans la convention 2014-2018. Un rattrapage de quand même 17 % sur 4 ans. Mais il y a 3 points qui achoperaient, sans aller dans le fond des choses. Il y a la parité salariale avec les autres corps de protection, mais il y a aussi la protection contre le harcèlement et la discrimination. Je suis allé lire la convention collective, Louis, hier, et il y a effectivement un protocole d'entente qui existe dans la convention.
Ouais.
Bon, oui, c'est écrit. Est-ce que c'est aussi fluide dans l'application? Je pense qu'il y a là un problème de gestion. Et l'autre élément, c'est le travail à distance. Et là, bon, on devine là qu'il y aura une redéfinition de toute façon du travail, du cadre de travail. Puis le gouvernement du Québec a déjà annoncé ses couleurs. Il y a des villes comme Montréal, Gatineau. Je pense qu'on s'en va vers une redéfinition de ces.
Mais comment on fait pour travailler à distance quand on est douanier?
On parle du personnel de... Oui, effectivement, on parle du personnel de bureau. Mais effectivement, la précision est importante. Donc, ça veut dire aussi, c'est un service essentiel, oui. Il y a 90 % des employés qui sont affectés à des postes essentiels, puis on peut comprendre là, les enjeux de sécurité nationale. Ça veut dire que c'est un débrayage effectif de 10 % des employés. Bon, qui va avoir un impact sur les chaînes d'approvisionnement manufacturières, des délais supplémentaires. Ça, c'est ce que nous promet le syndicat.
Ouais.
Et est-ce que ça va empêcher les Américains de nous visiter à partir du 9 août? Je ne pense pas, mais certainement, il va y avoir des irritants.
Sauf que,
il va y avoir...
Tu sais, des fois, c'est vrai qu'il peut avoir des services essentiels, mais il y a deux phénomènes que tu peux faire. Soit tu fais du ralentissement ou la grève du zèle, carrément. C'est la grève du zèle, tu dis OK, ben là, on vérifie à peu près toutes les voitures qui passent, puis alors ça étire les délais, puis ça fait en sorte que ça prend des heures et des heures passer à la frontière. Donc tu as un impact de cette façon-là, tout en faisant ton travail. Tu dis ben oui, je fais mon travail, mais en
oui,
même temps.
Effectivement. Il y a plusieurs stratégies,
ouais.
Tu as tout à fait raison. Puis évidemment, tout ça dans l'espoir de que les usagers se tournent vers leur gouvernement et exercent eux-mêmes des pressions. J'ai vécu 2 grèves, Louis, de col bleu à Sherbrooke, là, et dans les faits, il y avait 80 % des employés étant en service essentiel. Évidemment, il y avait de l'eau dans le robinet, puis les rues étaient déneigées, mais le 20 % là, c'était les parcs, les arénas, tous les loisirs pour les jeunes.
Mm-hmm.
Et là, c'est les parents qui exerçaient des pressions sur le conseil municipal. Donc, c'est ça qui est la stratégie.
Et est-ce que ça avait fonctionné?
Ben en partie, c'est-à-dire que à la longue, parce que ça a duré quelques semaines, et on a fini par gérer des conflits. Il y a des parents qui allaient avec des tondeuses pour faire le gazon sur des terrains de soccer. On a eu des problèmes. Mais est-ce que ça l'a facilité? Tu sais, des conflits de travail, le meilleur conflit ne vaut pas une mauvaise entente, comme on dit, là. Mais c'est sûr que ça a des effets. Et ces effets-là, les chambres de commerce, les associations de manufacturiers, dans le cas qui nous occupe là, des douanes, ils ont réagi, évidemment. Il y a des milliers, tu l'as dit, là, avec la pandémie, la grève du port de Montréal, tu sais, de perturbation en perturbation. Là, je pense qu'il n'y a rien là-dedans pour attirer la sympathie du public. Écoute, ça fait un an et demi que le pays est cloîtré. Il y a des difficultés d'approvisionnement. On comprend que les marchandises circulent quand même. Et je comprends aussi que les employés ont le droit d'améliorer leur sort. Là, c'est tout à fait légitime. Mais avec le fardeau que la communauté d'affaires subie depuis un an et demi, surtout à la veille d'un moment tant attendu, c'est-à-dire la réouverture progressive. Je pense qu'il devrait retourner. Tout le monde aurait intérêt à négocier. Peut-être exercer, comme tu le dis, d'autres types de pression, mais de grâce, négocier, là, parce que il reste de la place. Puis il y a toujours de la place pour négocier, de toute façon.
Bon, la sélection de Logan Mayhew fait beaucoup jaser, et ça a même fait jaser le premier ministre hier, Justin Trudeau.
Et quand le premier ministre, et pas à peu près, là, il parle d'une erreur de jugement, là, quand le premier ministre intervient, et les commanditaires, et les les organismes. Là, on gère une situation sociale davantage que sportive. Et je te dirais, les élus, les ministres, premiers ministres n'ont pas le choix d'intervenir quand le sport met à l'épreuve là, des valeurs de la société. Ils sont les gardiens de ces valeurs-là dans le discours public. Et je te dirais, le sport professionnel, on s'en rend compte, là. En tout cas, certains acteurs du sport professionnel sont déconnectés. Évidemment, c'est une bulle, hein. C'est une bulle, le sport professionnel. De plus en plus perméable, heureusement, mais c'est une bulle quand même. Écoute, Louis, moi, quand j'entends un premier joueur en plus d'un siècle, un premier joueur qui avoue son homosexualité, et je parle de Luke Prokop de Nashville, on est en 2021, là. Ça donne une idée de la culture du sport professionnel par rapport à ces questions-là.
Ouais.
Et le repêchage a été préparé de longue date, là. C'est pas un coup de tête. Ce dont on parle. On comprend que ça va vite quand ça décolle, un repêchage, là, mais il y a une réflexion derrière ça. Et la direction du Canadien a largement sous-estimé l'effet de la collision frontale entre les intérêts corporatifs de performance, qui sont légitimes, mais avec les valeurs de la société. Ouais.
Mais ils se sont créé un problème à eux-mêmes parce qu'ils savaient dans quoi ils s'embarquaient. Là. C'est pas quelque chose qui leur est tombé dessus comme la misère sur le pauvre monde. Là. Ils savaient ce dans quoi ils s'embarquaient. Alors.
Et c'est d'autant plus étonnant, Louis, le Canadien de Montréal, là, c'est un citoyen corporatif là, qui est exemplaire à l'égard des jeunes défavorisés, par exemple. Tu sais, la Fondation pour les Canadiens là, est au diapason avec les valeurs sociétales. Moi, j'ai inauguré une patinoire bleu-blanc-beige à Sherbrooke avec Geoff Molson, et ça, c'est reconnu partout dans les communautés au Québec. L'organisation a une grande influence, mais quand il y a un dérapage comme celui-là, et j'ai entendu les propos aussi d'Isabelle Charest, Enrico Ciccone, Gabriel Nadeau-Dubois. Moi, ce que j'ai entendu, là, c'était pertinent. Le rôle des élus, c'est d'intervenir, faire des pressions morales sur des organisations qui dérapent comme ça. Oui, ça divise. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord. Mais la beauté d'un débat comme ça, c'est que ça fait cheminer tout le monde à quelque part.
Voilà. Bernard Sévigny, merci.
Merci. À demain, Louis.
À demain. Bye.